étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je plongeais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Mec, ça va saigner. Ouais, ma qui dit, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Salut tout le monde, vous êtes bien en direct dans l'émission de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Donc pour nous appeler ce soir au direct, c'est le 01 40 05 06 10. Pour le reste de la semaine et pour les trois prochaines semaines, parce que ce sera des émissions enregistrées, ce sera le 07 53 10 31 95. Et il y a le prochain numéro qui va bientôt sortir. Donc pour toutes les personnes qui veulent s'abonner ou nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, L'Envolée-FPP. Et du coup, aujourd'hui, il y a un peu de monde autour de la table. Déjà, il y a Serge à la technique.
Salut à tous et à toutes.
Il y a Edith qui est avec nous.
Salut.
Arthur qui est
coucou tout aussi. Le monde.
Hugo.
Et salut.
Et Alex qui vous salue. Et voilà, bah, il nous manque juste Sylvain hein, pour être au complet sur ce. Et donc voilà, là on a une grosse émission, on va essayer de tout traiter, on va essayer de tout raconter, mais je ne sais pas si on aura le temps. On va commencer par deux lettres. Une lettre de Libreflow qui est incarcéré au QI de Bois d'Arcy. Là, cette semaine, juste, je tiens à le dire, ça fait un an en fait que l'affaire du 8 décembre est arrivée. Donc ça fait un an en fait que Libreflow il est en garde à vue et en quartier d'isolement. On va lire aussi une lettre de Kémy, dont on parle assez régulièrement ici. Kémy, il est incarcéré au quartier d'isolement de Saint-Maur. Et c'est lui qui avait écrit le texte Santa Muerte, dont on a pas mal parlé depuis la rentrée. Quoi. Après ça, on va recevoir un appel de Greg, qui est à Marseille, qui va nous parler un tout petit peu de la manif pour Zineb. Je rappelle juste que c'est quelqu'un qui s'est fait tuer par les CRS à coup de grenade lacrymo il y a un an, pendant l'acte 3 ou 4 des Gilets jaunes. Et que du coup, il y avait une manif interdite à Marseille, et que voilà, mais qu'elle a eu lieu et que c'était important. Et il va aussi nous parler un peu des un mois de discussions, réunions anticarcérales et contre les violences d'État qui ont eu lieu à Marseille. Et après, on va continuer sur le procès des Matons qui ont tué Sambali Diabaté il y a 5 ans maintenant. Procès où on était la semaine dernière. On avait commencé un peu à raconter dans l'émission de la semaine dernière. Voilà. Et à la fin, on va finir par tout ce qui est en train de se passer dans les différents centres de rétention, les prisons pour sans-papiers, notamment au Ménil-Amelot où il y a eu deux grosses révoltes, à Vincennes aussi, et parler de la grève de la faim qui est en cours à Lyon pour essayer de donner un peu de force et d'écho à la lutte là-bas, quoi. Donc, voilà, ça fait un gros programme. On va commencer l'émission d'abord par lire une lettre un peu sous forme de théâtre de Libre Flow qui est en ce moment à l'isolement à Bad-Arcy.
Et salut. Ceci n'est pas une vraie lettre, juste l'envie de partager un événement banal, du petit théâtre du quotidien, en un unique acte. C'est une visite de Luxa. Scène 1. Le rideau se lève sur une cellule. Une personne est penchée sur son bureau, étudiant des documents. Un bruit de clé actionnant une serrure retentit fortement. La personne se lève, saisit un masque, l'enfile pendant que la porte s'ouvre. Scène 2. Derrière la porte, dans le couloir, se trouvent deux personnes en blouse blanche, une doctoresse, jamais vue par le détenu, et une infirmière. Et deux autres en uniforme bleu foncé, surveillants et gradés. Chacun reste de son côté de la porte, durant toute la scène. La doctoresse. Bonjour, c'est Luxa, vous allez bien ? Le détenu. Mouais, c'est comme d'habitude. La doctoresse. Ah, ça veut dire que ça va alors ? Le détenu. Non. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours de fortes douleurs aux articulations, tout particulièrement aux genoux et aux poignets. La doctoresse fait style d'écrire sur un document, mais c'est trop rapide pour n'être plus qu'une croix ou deux. Elle reprend. Ah, c'est parce que vous ne faites pas assez de sport. Le surveillant. Ça, non. Il en fait bien du sport. La doctoresse. Alors c'est parce que vous en faites trop. Passez une bonne journée. La porte se referme, le rideau tombe sur le détenu. Voici une scène 100% véridique. Rien n'a été omis ou rajouté, de ce que j'ai perçu. Cette visite n'a rien d'extraordinaire. Elle est d'une banale réalité. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Pour Luxa, ces visites sont des visites de routine, et c'est le cas. Tout va toujours bien selon eux, tant qu'on ne dit pas de manière appuyée que ça ne va pas. Ces visites doivent aller le plus vite possible. Il faut un réel effort aux détenus pour avoir une oreille attentive. Effort d'autant plus difficile quand ça ne va pas. L'intervention du surveillant, même si elle partait d'un bon sentiment, démontre le non-respect du secret médical. Et au final, la visite n'a servi à rien. J'ai mal ? Bah, c'est ta faute. On s'en fout. Voilà, je voulais juste vous partager ça, pendant que je l'avais en tête. Je vous écrirai une vraie lettre pour répondre à celle que vous m'avez envoyée et que je n'ai pas encore reçue. Au plaisir de vous lire et de vous écouter. Salutations et respect, Flo.
C'est un courrier qu'on a reçu il y a déjà quelques semaines. Du coup, on a pris un peu de temps là pour le lire. Mais donc déjà, peut-être pour expliquer, Luxa, c'est les unités de consultation et de soins ambulatoires. Donc c'est le médical à l'intérieur si tu ne vas pas dans les hôpitaux pénitentiaires, quoi. Et évidemment, en fait, ce qu'il raconte, bah, c'est plus que courant, quoi. La question du secret médical, bah, qui devrait être la base, n'existe pas. On rappelle que les médecins, ils ont quand même le pouvoir de dire aux matons de se casser. Qu'en fait, c'est un droit quand tu es médecin, quoi. De faire respecter le secret médical, et donc que c'est un choix en fait de la part de cette doctoresse de collaborer comme ça avec l'administration pénitentiaire, quoi. Voilà. Et
ouais, parce que bah il me semble on en avait parlé il y a quelques semaines, je sais plus qui nous racontait ça. C'est exactement en fait, il y a les médecins, ils viennent checker une fois par semaine ou un truc comme ça devant chaque cellule, comment ça va, enfin est-ce que les prisonniers ont besoin de quelque chose. Et en fait, il y a toujours les matons qui sont systématiquement derrière le médecin à ce moment-là. Enfin, on nous racontait déjà ça. Et du coup, forcément, bah, tu n'as aucun secret médical. Et tout ce que tu vas dire au médecin va être écouté par les matons. Et encore une fois, les médecins pourraient demander parce que les matons se cassent, quoi.
Ouais, puis après, il y a les moments aussi où tu indiques que ça ne va pas. Et ça, ça passe aussi par les matons. Donc, tu es obligé de passer un mot au maton dans lequel tu demandes un rendez-vous des médicales. Donc, tu es obligé de dire qu'il y a un truc qui ne va pas et ça passe par l'homme 1. Donc, voilà. Donc, t'as pas besoin normalement de préciser c'est quoi, mais en fait t'es quand même obligé de préciser c'est quoi, c'est-à-dire que t'as pas l'obligation de mettre sur le papier voilà, mais t'es obligé parce que sinon le médical il voudra pas te voir, donc t'es obligé de dire non mais voilà c'est pour ça que voilà, et ce papier il passe entre leurs mains Et voilà, on sait bien que c'est pas des enveloppes cachetées ni quoi que ce soit, scellées et tout quoi. C'est toujours le même truc. Et bah là, tout à l'heure, on va lire un peu la lettre, enfin la lettre de la femme d'Adil Teshi. Et en fait, ça fait aussi écho à d'autres choses, parce que là la personne est accueillie, mais il y a aussi plein d'espaces. On en a parlé il y a 2-3 semaines
avec
Gordana, où les médecins à l'intérieur, en fait, ils vont pas accepter de soigner de manière normale, comme ils le feraient à l'extérieur. Et ça remonte à il y a longtemps, en fait, parce qu'il y avait déjà eu des luttes dans les années 90. Il y avait un petit bouquin qui avait fait un peu scandale, tout ça, d'une médecin à la santé qui disait que c'était absolument dégoûtant. Et à ce moment-là, ils ont séparé, parce qu'avant, les médecins étaient dans la pénitentiaire. Donc ils étaient dans la même administration et tout, voilà, comme les médecins scolaires ou genre.
Et maintenant ils sont détachés.
Ils sont détachés
de l'hôpital du coup.
De l'hôpital, ouais. Voilà. Sauf qu'en fait dans la pratique ça a absolument rien changé. On est toujours dans les mêmes endroits. Le médecin qui anciennement était là en fait est resté. C'est juste qu'en fait son contrat il a changé.
Mais, ouais, c'est qui le paye directement.
Mais voilà, ça change rien parce que les rapports avec les matons qu'ils avaient et autres en fait ils étaient déjà en place. Et c'est la même chose. Que dans partout, en fait, bah, leurs principaux collègues, c'est les matons qui croisent quand ils vont bouffer ensemble aux messes ou autre quoi. Et donc ça se passe toujours comme ça. Et voilà, et c'est très rare. Et c'est la même chose pour les gardes à vue, c'est la même chose voilà que les médecins fassent respecter ce droit des gens à ne pas avoir quelqu'un d'autre dans la salle quoi.
Ouais, parce qu'en fait, il y a deux choses par rapport au secret médical. Déjà, c'est un droit et ça devrait être normal, mais il y a aussi qu'en fait, il y a une partie des problèmes de santé qui peuvent venir des matons, quoi. Et donc, ça peut être compliqué d'en parler devant les mêmes matons qui t'ont tabassé, etc., quoi. C'est le premier truc. Ça rappelle aussi quand même pas mal tous les coups de fil qu'on a de prisonniers en centre de rétention, qui parlent beaucoup du médical et de comment c'est géré. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est les UMCRA, c'est les unités médicales de CRA qui sont déléguées par l'hôpital du coin et qui viennent faire office de complices de la police aux frontières pour assurer des expulsions. Il y a un autre truc, c'est qu'il y a aussi un parti pris très souvent de ces médecins, en général, c'est de penser que la personne, c'est un mytho. Et en fait, c'est là où tu vois que c'est vraiment des complices et qu'ils travaillent avec les matons au quotidien, c'est qu'ils ont vraiment une vision de la personne qui vient au médical uniquement pour essayer d'avoir un allègement ou d'avoir un médoc, ou etc. quoi. Et qu'ils ne prennent pas du tout en considération qu'en fait, les gens, quand ils viennent au médical, c'est qu'ils ont déjà dû batailler, quoi, qu'ils ont déjà dû faire ce fameux pli, etc. Donc, ils ont déjà dû se faire chier à aller parler avec des matons. Et en plus de ça, en fait, c'est des médecins qui sont tout à fait conscients que l'isolement, ça provoque des problèmes de santé, quoi. Et du coup, quand quelqu'un vient en disant j'ai mal à la tête et je suis au QI, ils sont en mode ouais, c'est normal. Enfin, ils n'ont plus aucun problème à dire en fait, juste son état de santé, il n'est pas compatible avec le quartier d'isolement, quoi, ou le mitard, quoi.
Il faut vraiment être dans une situation de santé vraiment catastrophique, en fait, pour que ça réveille les gens, en fait. Et très souvent, c'était le cas pour Gordana, c'était le cas pour Adil Teshi. Pour Sambali aussi, c'est la même chose. Il y a les médecins psy qui disent non, mais ils mitonnent. Ils racontent des conneries et tout.
Et le dernier truc, par rapport à Libreflow, là, dont vient de lire la lettre, c'est qu'il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière, dans un de tes courriers, tu nous parlais du fait que en fait, ton rendez-vous au dentiste, il avait sauté. Que tu avais dû batailler pour avoir, je sais plus c'était quoi ta galère, mais tu avais dû batailler pour avoir un rendez-vous d'ici 2-3 semaines, que là il est reporté à fin décembre, et on espère qu'il aura lieu quoi, au bout d'un moment. Voilà, pour tout le monde en fait à l'extérieur, on sait très bien que quand on va chez le dentiste, c'est souvent qu'il y a une urgence et que ça fait très mal, et que c'est un peu chaud de durer dans le temps. Et du coup, c'est un peu un truc qu'on dit souvent ici, c'est-à-dire que quand t'es en tôle, en fait, que t'as une rage de dents, t'es obligé de le prévoir en avance. Parce que quand t'as ta rage de dents, tu dois passer ton pli, et après tu dois attendre qu'il y ait un rendez-vous chez le dentiste, quoi. Et on se doute bien que si dehors c'est la merde, qu'on galère à avoir des rendez-vous chez le médecin, à l'intérieur, c'est forcément le cas, quoi. Et le dernier truc que je voulais dire avant qu'on passe à la lettre d'après, c'est qu'en fait aussi il y a un effet structurel là-dedans, c'est-à-dire que les conditions de travail, les collègues, c'est-à-dire tous les matons, etc., c'est tellement des chiens tous, qu'en fait si t'es médecin et que t'es pas quelqu'un d'horrible, normalement tu démissionnes, en fait. Et c'est ce qui se passe pas mal en centre de rétention, les infirmiers et infirmières, si c'est pas des monstres, ils tiennent pas l'année, quoi. Et donc à la fin il reste que les pires, quoi. Enfin, et du coup, ça fait un nouvel effet structurel pour vraiment s'assurer que y ait un manque de soins permanent à l'intérieur, quoi. Voilà.
Et sans parler des extractions médicales qui sont inexistantes ou presque. Voilà. Et quand le nombre de fois où on a eu des lettres ici, où quelqu'un devait avoir un rendez-vous à l'hôpital du coin pour des radios ou autres, et que personne ne sont venus le chercher, et puis quand t'apprends deux jours après que t'as signé, comme quoi tu voulais pas bouger, voilà. Et ça c'est vraiment les trucs très classiques qui t'empêchent de te soigner à l'intérieur, quoi. Et ça c'est les matons qui ont tous les pouvoirs.
C'est les matons et l'administration, quoi. Ça rappelle l'histoire d'un gars là, qui était au Ménilamlo l'année dernière, qui s'est fait péter les jambes, enfin les pieds par les keufs pendant une tentative d'évasion. Après ça, il a pris 8 mois de prison pour. Alors c'est pas tentative d'évasion parce qu'en centre de rétention, il n'y a pas la criminalisation de l'évasion, mais c'est pour refus de se soumettre à une mesure d'éloignement. Et en fait, il l'a envoyé d'abord à Meaux, sauf qu'à Meaux, eh ben, évidemment, il ne pouvait pas soigner ses pieds. Il a bataillé pendant 4-5 mois pour arriver à Fresnes, sauf que le temps qu'il arrive à Fresnes, puis qu'après il soit transféré à l'hôpital de Fresnes, et ben c'était la fin de sa peine. Et du coup, il a été renvoyé en centre de rétention, les pieds pétés, quoi. Et ça, c'est vraiment une manière de garder la personne pour pas qu'elle puisse résister le jour J face à l'expulsion, quoi. Et donc, c'est vraiment. Enfin, ouais, c'est même pas une question de complotisme, en fait. C'est juste vraiment des gens, au fur et à mesure, quoi. C'est un effet structurel de l'administration pénitentiaire. Et c'est pas du hasard, quoi. Il y a pas. Enfin, c'est pas des coïncidences. Il y a trop de sommes de coïncidences pour que ça en soit, quoi.
Ouais, c'est un truc qu'on dit quand même souvent ici. Du coup, le médical, il joue un rôle hyper important. Bah, comme on disait, à la fois pour servir de caution, parce que c'est celui qui va toujours dire oui, ton état de santé te permet d'aller au mitard, alors que bon, tout en disant effectivement, on sait très bien que le mitard, ça détruit les gens, mais toi, tu peux y aller. Et dans les CRA, c'est eux qui vont dire oui, ton état de santé te permet d'être expulsé. Autrement dit, on pense que tu vas pas mourir le temps de l'expulsion, et après, ça nous concerne plus, quoi. En fait, c'est toujours pareil.
Et puis, juste quand ils disent que ton état de santé est incompatible avec le mitard, c'est le cas par exemple de l'infâme. En fait, ça veut dire qu'on te met au mitard et qu'après, on constate que ton état de santé il est incompatible. Mais tu passes quand même tes 24 heures, tes 48 heures ou tes 4 jours au mitard. C'est, ça ne veut pas dire que pour toi, le mitard, c'est fini, quoi. En fait, c'est aussi un truc assez fort. Et bah, Kémy, là, dont on va vous lire la lettre, c'est aussi quelqu'un qui est passé à Luxa pour tout un tas de raisons et qui a aussi beaucoup critiqué. Vous pouvez retrouver ses lettres dans les émissions là, depuis la rentrée où il a pas mal à la fois critiqué le rôle de Luxa et un peu ce que c'était aussi, quoi. Et donc, on va vous lire sa lettre. Est-ce qu'il y a besoin de le représenter un peu plus? Je ne sais pas.
Non, mais comme tu disais, c'est quelqu'un qui est... Bah, après, il va revenir dedans là, dans sa lettre. Mais c'est quelqu'un qui est au quartier d'isolement depuis, je crois, 2 ans. Qui est en prison depuis une dizaine d'années. Donc, il nous écrit pas mal. Bah, là, ça fait, je pense, ça commence à faire presque 1 an qu'on échange de plus en plus, qu'on relaie ses lettres. Donc, comme on disait, son texte, La Santa Muerte, où il parlait de... La centrale de Saint-Maur, on l'avait publié, je crois, dans le numéro 52 du journal. Bref, vous pouvez aussi le retrouver sur le site. Donc, je vais vous lire ça, la dernière lettre qu'il nous a écrite. Bonsoir, chers auditeurs. Là, il est 23h et je tourne en rond dans ma cellule. Donc, je prends ma plume pour vous donner de mes nouvelles. La semaine dernière, j'ai enfin vu la directrice de Santa Muerte. Elle a fait une demande de sortie du quartier d'isolement, mais je crois que c'était pour m'endormir. Car pour l'instant, j'y suis encore. En plus, j'ai appris par un pote qui a vu la chef et qui lui a dit que ce n'était pas pour tout de suite. Ils ne sont même pas capables de me le dire en face. Je vois rouge. Pour les autres détenus, ça prend 3 jours, et pour moi, ça prend des plombes. J'avoue que mon moral baisse, car les fêtes arrivent, et je ne me sens pas capable de les passer à l'isolement. Des envies de suicide me traversent l'esprit, j'essaye de rester combatif, mais imaginez 2 ans de quartier d'isolement gratuit, et encore un Noël seul, sans parloir, sans rien ni personne avec qui discuter. J'ai beaucoup de lettres de personnes qui me donnent leur soutien, et je les en remercie, mais je supporte de moins en moins l'isolement social. 23 heures sur 24, dans 9 mètres carrés pendant 2 ans, ça laisse des traces indélébiles. Mes enfants me manquent, le contact humain me manque. Je regarde autour de moi et tout ce que je vois, c'est le néant, le vide. Ce soir, j'ai regardé un film qui se passe en prison. Et dans ce film, il y avait une scène qui m'a rappelé de mauvais souvenirs. C'est un type qui vient d'apprendre le décès de son papa. Il avait l'autorisation d'aller aux obsèques, mais à la dernière minute, l'administration pénitentiaire l'en a empêché. Ce qui m'est arrivé... et poussé à faire une prise d'otage en 2016 à la centrale d'Ensinheim, en Alsace. Ce qui m'a valu 8 ans ferme en plus. Depuis tout à l'heure, je suis partagé entre la douleur et la rage. La raison pour laquelle j'écris ce soir, en espérant que ça me calme, mais je sais que je suis parti pour une nuit blanche. J'aimerais parler de choses joyeuses, mais j'ai le cœur et les pensées si sombres que cela m'est impossible. Je m'accroche et me dis que peut-être je sortirai du quartier d'isolement dans quelques jours, mais sans grande conviction. Je sais que j'ai commis des actes condamnables, mais ça fait 10 ans que je suis en prison. Et j'en ai encore pour 11 ans sur papier, alors que j'ai tué personne. Un violeur n'aurait même pas fait la moitié de ma peine, alors que je n'ai que 32 ans. Je m'en suis pris à l'administration pénitentiaire, et maintenant j'en paye le prix fort. Ma vie est foutue, je n'ai plus d'avenir, Que vais-je faire à ma sortie après tant d'années passées derrière les barreaux? Dans quel état je vais être avec toute cette haine et rage qu'ils ont placée en moi? J'ai fait l'idiot, je l'assume, mais jamais je n'avais eu le cœur aussi noir. J'ai toute une vie à reconstruire, car depuis mes 15 ans, je n'ai connu la liberté que pendant une année. Vous vous rendez compte? J'ai passé plus de la moitié de ma vie en prison. Et on ne veut plus pas me donner une chance de me racheter. Je suis conditionnable en 2022, mais comment préparer ça dans de telles conditions d'incarcération? C'est la prison et ses codes qui m'ont éduqué. J'ai appris la vie à l'école du crime. Pour la justice française, je suis un cas perdu. Mais c'est normal si l'administration pénitentiaire ne fait rien pour m'aider à devenir autre chose qu'un numéro d'écrou. On nous colle des avocats commis d'office qui ne servent à rien, car ils débutent, ou qu'on ne peut pas leur donner 3000 euros pour défendre nos droits. On nous parle de réinsertion, mais où est-elle? Je vous pose la question. En prison, il n'y a que la répression. 2 ans que je galère comme un chien à l'isolement gratuitement. Tout ça parce que l'administration pénitentiaire considère que je suis un danger. Mais un danger pour qui? Je suis qu'un simple cambrioleur entouré de meurtriers et de violeurs, alors je suis un danger pour qui? En vrai, je suis un danger car toutes les peines internes, 23 ans, que j'ai pris en plus, je les ai prises car je m'en suis pris à l'administration pénitentiaire. Voilà ce qu'est l'administration française. Violer nos enfants, on s'en fout, mais ne touchez pas l'administration. Force et courage à toutes et tous, celles et ceux qui sont enfermés et leurs familles. Michael G. alias Kémy.
Bah, y a beaucoup de choses hein, dans cette lettre. Je pense que déjà, juste pour dire, dans cette lettre, enfin là, il nous parle du fait qu'il est poussé à bout par l'administration pénitentiaire. On sait que les suicides, c'est quelque chose qui est provoqué par les matons, bah, dans son cas avec l'isolement prolongé. Mais que par contre, en vrai, nous, on échange beaucoup de courriers avec lui, de messages et tout. Et qu'en fait, c'est quelqu'un qui est fort, qu'actuellement, il va bien psychologiquement, malgré tout ce qu'on lui met dans la gueule, et physiquement. Que s'il se passe quoi que ce soit, c'est l'administration pénitentiaire qui en sera tenue responsable. Et qu'il est évident qu'il ne va pas se suicider dans les 10 prochains jours, et que du coup, s'il se passe quoi que ce soit, nous, on ira foutre la pression sur sa mort, quoi. Je pense que bon, voilà, ça, c'est important à dire.
Parce qu'après, ouais, un des trucs qu'il raconte, je ne sais pas si on... Parce que c'est quand même une lettre où il revient pas mal sur son histoire. Et le truc qu'il raconte, l'histoire de l'enterrement auquel en fait, on l'empêche d'assister, et qu'à cause de ça, bah forcément, il pète un câble, il fait une prise d'otage, que nous, ici, on appelle plutôt une prise de parole, parce que c'est le seul moyen, du coup, qui lui reste pour essayer d'obtenir ce qu'il veut, et que derrière, en fait, après cette prise d'otage, bah, il prend non seulement, je crois, donc, il dit 10 ans, une énorme perne interne, mais en plus, il prend cet isolement prolongé, parce que c'est à partir de là que l'administration pénitentiaire décide qu'il est dangereux et qu'il va être placé à l'isolement en continu. Et ça, c'est une histoire, quand même, qui rappelle fortement, il me semble, Fabrice Borromée, qui a quand même...
Et beaucoup d'autres. Hein.
Ouais, et
en fait,
d'autres, mais...
c'est un gros jeu de l'administration pénitentiaire. C'est un gros moyen de pression et pour casser les gens que de ne pas les envoyer, de ne pas leur filer la perme pour les obsèques, pour bien leur montrer qu'il y a le pouvoir. Quoi. Et en fait, c'est aussi une manière de pousser les gens à réagir. Parce que c'est ce que tu dis. En fait, s'il a demandé sa perme, c'est qu'avant ça, il a fait des démarches. Que déjà, lui, il est en train de gérer son deuil. Il est en tôle dans sa cellule. Et il doit gérer les démarches pour avoir une perme, pour pouvoir être présent le jour de l'enterrement. Finalement, il apprend quasiment au dernier moment que ce n'est pas le cas. Et en fait, le seul truc qui te reste à faire, c'est à bloquer un maton, parce que prise d'otage, il bloque un maton, il essaye de négocier un rapport de force avec l'administration pénitentiaire, quoi. Et le truc, c'est que par contre, l'administration pénitentiaire, elle oublie jamais, quoi. Et ça, c'est le cas de Fabrice Borromée, dont tu parles aussi, de l'infâme aussi, dont on parlait avant. L'administration pénitentiaire, une fois que tu t'es levé contre elle, quel que soit ton un peu comment tu l'as fait, quoi, et bah, elle va pas t'oublier et elle va te faire payer. Là, actuellement, il est à Saint-Maur. Saint-Maur, c'est une des tôles, un peu comme Saint-Martin-de-Ré, dont on a parlé la semaine dernière, où il y a plein de baraquements de matons. Quoi. En fait, il y a Saint-Maur et il y a la maison d'arrêt de Châteauroux, et ça fait la ville de Châteauroux. Quoi. Et en fait, il y a plein d'emplois dans le coin qui sont liés à ça, quoi, à l'administration pénitentiaire. Et les gens là-bas, ils sont pas mal matons de père en fils, ou de père en... Enfin, de... Bref. Ils sont pas mal matons, comme ça, générationnellement. Quoi. Et en fait, ça forme des matons totalement narvalos, qui sont hyper violents. Je rappelle juste qu'en début d'année, on avait des lettres de Yuri, qui était à Condé-sur-Sarthe avant et qui racontait comment en fait une fois qu'il est arrivé à Saint-Maur, parce que lui s'est battu à Condé, une fois qu'ils l'ont transféré à Saint-Maur, on a arrêté de lui donner la gamelle, comment ils étaient violents avec lui et comment ils ont essayé de le pousser à bout, quoi.
Est-ce que ça, quand on dit l'administration pénitentiaire, elle oublie jamais, c'est bon, il y a à la fois effectivement l'acharnement administratif, mais c'est surtout il y a des matons qui en fait t'attendent d'une tôle à l'autre, qui savent très bien, on a déjà parlé du rôle des syndicats qui jouent vraiment ce rôle-là, mais les gens quand ils arrivent dans une nouvelle tôle, comme tu dis, ils sont attendus et on leur fait la misère. Alors, leur arriver pour bien leur dire qu'on va leur faire payer ce qu'ils ont fait ailleurs et que de toute façon, on ne va pas oublier. Quoi.
C'est le cas de Fabrice. Hein. Fabrice, il y a eu déjà des tracts de matons qui sont sortis au moment où il arrivait dans une tôle pour dire hors de question. Quoi. Mais il n'y a pas que les syndicats. En fait, il y a aussi tous les réseaux sociaux maintenant qui sont grave utilisés par l'extrême droite et les matons et où ils déversent leur haine quotidienne. Quoi, et ils se préviennent, ah ouais, il y a un tel qui arrive dans ta tôle. Et ils sont dans un espèce de concours viriliste de à qui va plus briser.
Puis les syndicats, hein, parce qu'il n'y a pas eu besoin des réseaux sociaux pour faire ça.
Hein, ouais, ça c'était le truc d'avant. T'inquiète. Mais non, voilà. Et du coup, en fait, il y a ce double truc. C'est-à-dire, quand les syndicats ne marchent pas, de toute façon, il y a les réseaux sociaux. Donc, de toute façon, les gars, ils sont attendus quoi, d'une tôle à l'autre.
Et ça dit bien quand même à quoi sert l'isolement. Enfin, pas que, mais quand même, c'est un des trucs là, quand même, on en revient là. Mais ça fait 2 ans qu'il est à l'isolement, c'est quand même un truc de ouf. Et comme Karim, comme Fabrice, en fait, c'est des gens qui ont fait des mouvements à l'intérieur, c'est quasiment quand même toujours le même scénario, et qui derrière, en fait, vont avoir un isolement qui va quasiment. Enfin, qui semble infini et qui, comme il dit, en fait, va le priver de toute forme d'aménagement, toute forme d'accès, en fait, à plein d'activités. Et qui.
Enfin... Et faut pas oublier que pour des isolements aussi longs. À la fin, c'est le ministre de la Justice qui appose sa signature pour y mettre fin. Et donc, voilà.
En gros, au début, c'est renouvelé tous les 3 mois par l'administration pénitentiaire. Et au bout d'un an...
Ça remonte, en fait. Au début, c'est au niveau local. Après derrière, voilà. Et à la fin, avec des délais, 3 mois, 6 mois...
Exactement. Et c'est renouvelable à l'infini. En fait, ils ont micrari des délais pour faire genre qu'il y a un moment, ça allait s'arrêter. Mais en fait, juste tous les 6 mois, il y a l'autre, là, il y a... Du coup, Moretti, il prend son papier et il signe tous les papiers qu'on lui a filés pour prolonger l'isolement. Quoi. On se doute bien que lui, il en a strictement rien à foutre personnellement des gens. Quoi. Par contre, il va suivre ses matons et il va suivre la vengeance qui est demandée par ses matons. Quoi.
Sauf quand ça concerne les prisonniers corses, qui étaient ses anciens clients. Là, par contre...
Il n'a pas toujours été réglo avec ses anciens clients en tant que ministre de la Justice.
Ça, c'est clair.
Sauf pour Sarko et pour toute la droite, qu'il a bien viscère. Mais tous les gens qui l'avaient bien payé avant, depuis qu'il est ministre, on ne l'a plus trop entendu. Quoi.
Non, mais ça, c'est clair.
Moi, il y a 2 trucs aussi que je voulais rajouter. Sur les questions d'avocats commis d'office, c'est évident. Par exemple, il est à Saint-Maur. C'est-à-dire que s'il prend de la peine interne, c'est les avocats du tribunal du coin. Le tribunal de Châteauroux. Je ne vais pas me dire sur Châteauroux parce que je suis parisien, mais en vrai, c'est comme ça, Martin Drey. Non, mais enfin, on a vu le tribunal de La Rochelle. On se doute qu'il vient en partie des peines internes de la tôle, quoi. Et qu'à Saint-Maur, il y a plein de gens qui retournent en correctionnel alors qu'ils sont en centrale et donc qui sont des longues peines. Et donc, le tribunal, il évite ça du coin. Donc, les avocats commis d'office, s'ils sont payés par l'État, c'est aussi pour ça, quoi. Donc, ils n'ont aucun intérêt à casser l'effet de structure et à faire une vraie défense pour les prisonniers à l'intérieur, parce que eux, c'est leur business, tant le procureur que le juge que l'avocat. Quoi. Surtout à une période où on nous parle de rationaliser les tribunaux et en supprimer pas mal. Quoi.
Ouais, ça, pour bien expliquer, c'est ça que tu dis, c'est en fait, ces commis d'office, eux, ils vivent dans ce tribunal, c'est leur lieu de travail, comme on disait tout à l'heure, des médecins, et donc ils passent leur temps avec ces juges chez Proc et les matons qui leur amènent des prisonniers de temps en temps. Et donc, effectivement, eux, ils n'ont pas du tout intérêt à aller contre ce...
Ouais. Et on vous renvoie sur l'émission qu'on avait faite sur la justice en centre de rétention, où on avait parlé un tout petit peu de ces liens d'amitié entre avocats commis d'office, juges, avocats de la préfecture, et comment tout ça était un petit monde bien huilé.
Juste... Ou l'interview de Youssef, qui était à Condé-sur-Sarthe, et qui racontait très très bien comment il y avait tout ce système qui fonctionnait ensemble.
De Sabri, pardon.
Ouais.
Et je crois que c'est les émissions qu'on n'a jamais mises sur le site, et je suis trop désolé, mais en tout cas, si elles sont sur le site, elles sont c'était les émissions de fin 2019. Du coup, voilà, pour celles et ceux qui ont Internet, il ne faut pas hésiter. Et juste, un autre truc, plus dans le commentaire de ta lettre, c'est sur les questions, violeurs, machin truc. C'est évident qu'en fait, on est face à une justice qui va pénaliser moins les agressions sexuelles, surtout si elles viennent de personnes de classe dominante, et que c'est majoritairement les pauvres et les étrangers et étrangères qui prennent des peines de prison pour tout ce qui est violence sexiste. En général. Après, nous, on n'est pas juge. Du coup, en fait, c'est pas notre question à nous de savoir pourquoi les gens ils sont en tôle. On sait que par contre, quand t'es pauvre, quel que soit le truc que tu vas faire dans la vie, tu vas prendre cher. Ça, c'est sûr. Et je suis même pas sûr que tu serais déjà sorti parce que t'aurais certainement eu les mêmes galères à la fin avec l'administration pénitentiaire et tu te retrouverais très certainement à l'isolement. Et après, l'autre truc, c'est sur les questions de meurtrier, machin truc. Nous, on n'est pas là pour faire une échelle des peines à la façon de la justice. Moi, je suis pas là pour dire quand est-ce que quelqu'un, qui est un meurtrier, de qui est un braqueur, de qui est un machin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est une justice de classe, c'est une justice qui est au service de l'intérêt de l'État et que l'État, il n'est pas neutre. Si l'État, il est là, c'est pour préserver les intérêts des gens qui nous dominent. Et donc, c'est à la fois des colons qui vont en Afrique pour faire des thunes et donc qui vont cibler principalement les étrangers, mais c'est aussi des gens qui ont besoin de maintenir les gens dans le travail pour qu'ils continuent de toucher le SMIC, enfin d'accepter de toucher le SMIC pour des salaires, pour des travails de merde. Et donc, évidemment, il y a tout un effet de pression sur les plus pauvres, quoi.
Et juste, ouais, enfin, pour rappeler aussi, parce que c'est un truc dont on a pas mal discuté à cette antenne, mais enfin, en fait, cette distinction à l'intérieur de la détention entre les différents types de peines, c'est un truc sur lequel l'administration pénitentiaire joue aussi énormément pour créer des... Voilà, les matons jouent pour créer des divisions, trouver... Enfin, monter des prisonniers les uns contre les autres ou les unes contre les autres. C'est un truc qui est vachement utilisé, quoi.
Et donc, on est bon, on n'a pas besoin de rajouter d'autres trucs là-dessus. En tout cas, on souhaite vraiment plein de force à l'intérieur. Enfin, voilà, il y a pas mal de poteaux qui sont en contact assez régulier avec toi. Mais on sait aussi que la période des fêtes, elle est rude et tout. On vous dira à la fin de l'émission ce qu'on a prévu et tout ça. Il y aura des quotidiennes et tout ça. Voilà. Et donc, en tout cas, plein de force à toi et puis aussi à toutes les personnes qui sont enfermés de manière générale, mais aussi ceux qui sont particulièrement à l'isolement et au mitard, parce qu'on sait que c'est particulièrement à cet espace-là. Voilà. On a quelqu'un au téléphone, je ne sais pas si tu veux te présenter.
Salut.
Salut.
Ça va ? On t'entend très bien.
Ah bah super, tant mieux. J'ai l'impression d'être en télétravail, je suis chez moi, je vous appelle en même temps, quoi.
Bah écoute, on préférait que tu sois ici, hein, mais bon.
Ouais. Bah du coup je suis à Marseille, c'est Greg, et je vous appelais, je voulais vous raconter un peu ce qui s'est passé le week-end dernier ici. C'était le 3e anniversaire de la mort de Zineb Redouane. Donc c'était c'est une dame, on avait parlé plusieurs fois là, même juste à l'instant. Une dame qui est morte du coup dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018. Elle est morte chez elle. Et à cause d'une grenade d'un CRS qui avait été lancée, c'était un moment à Marseille là où il y avait pas mal d'agitation là en cette fin d'année 2018. Il y avait les gilets jaunes, donc il y avait des samedis gilets jaunes où c'était déjà qui débordait pas mal un peu les flics. Et il y avait aussi dans le quartier où habitait Zineb Redouane, qui est un peu dans le centre-ville là, c'est le quartier de Noailles. Quelques semaines avant, il y avait deux immeubles qui s'étaient effondrés. Et du coup, ça avait amené plein de réflexions et de trucs sur le malogement et tout ça. Donc, c'était un jour où il y avait ce qui s'appelait une marche de la colère, ce qu'on avait réussi à appeler une marche de la colère contre ces histoires de malogement, tout ça. Et du coup, ouais, voilà, les flics, ils avaient été un peu débordés à ce moment-là. Et il y a cette histoire de grenade qui est partie, qui a tapé Madame Redouane et qui pendant qu'elle fermait la fenêtre de chez elle. Et donc, elle est morte dans la nuit, là, quelques heures après, à l'hôpital. Donc là, c'était un peu la commémoration du 3e anniversaire de cette mort.
Et peut-être rappeler qu'elle était au téléphone. Elle était au téléphone à ce moment-là avec sa fille et qu'elle a dit à sa fille « ils m'ont visé ».
Ils m'ont visé, ouais, voilà.
Et le procureur qui était en charge de l'affaire au début, c'est le procureur qui accompagnait les CRS à ce moment-là, dont les CRS qui ont tiré la grenade aussi, si je dis pas de conneries.
C'est ça, ouais, bah en fait, il y a plein de trucs, c'est les trucs qu'on dit souvent à cette antenne-là, que les gens qui écoutent l'envol, ils connaissent bien, c'est un refrain qui est un peu connu, mais en gros, depuis 3 ans, là, il n'y a personne qui a été poursuivi, il y a plein de vidéos, mais il n'y a aucun flic qui a été identifié sur les vidéos. Et personne ne se rappelle de rien, quoi. Ils ont été. Personne ne sait qui tenait l'arme à ce moment-là, machin. Il y a même les officiers qui ont refusé en fait de laisser expertiser les armes.
Ouais, c'est ça. C'est
vraiment un truc.
Qui est un truc hallucinant parce que quand
à ce niveau-là. Et donc personne qui a été inquiété pour cette mort-là. Du coup, jeudi de la semaine dernière, là, le soir à 18h, là, qui était à peu près l'heure où elle est morte. Il y a eu un rassemblement en bas de chez elle, donc il y avait pas mal de monde, un petit moment assez émouvant avec du coup des prises de parole et aussi la pose d'une plaque. En fait, elle habitait à l'angle de la rue. Et du coup, régulièrement, là, c'est rue des Feuillants, mais régulièrement, il y a régulièrement des personnes, ils recouvrent la plaque rue des Feuillants, mettant rue Zineb Redouane. Mais la pharmacie du coin, elle gueulait à chaque fois parce qu'elle avait des problèmes de livraison, du coup, le livreur ne retrouvait plus. Mais bon, du coup, on a essayé de mettre... Il y a des gens qui ont
C'est vrai qu'il n'y a pas de GPS hein, chez les livreurs.
Comment ?
C'est vrai qu'il n'y a pas de GPS chez les livreurs.
Ouais, non, mais surtout, on disait de donner de vous donner la vraie adresse. Vous dites rue Zinepredouane et ça arrivera chez vous, quoi. Vous aurez vos livraisons. Mais bon, du coup, il y a une plaque qui a été posée un peu plus en dur. Et en fait, donc ça, c'était vers 18h. Il y avait des bagnoles de flics qui étaient plutôt discrets à ce moment-là, mais en fait, c'était vraiment à l'affût, quoi. Et 2 heures après, ils ont enlevé la plaque, quoi. Alors, il y a plein de gens qui parlent de provocation et tout. Moi, c'est un truc de. Enfin, c'est juste un manque de respect, quoi. C'est un truc d'irrespect incroyable, quoi. Donc, ils ont enlevé la plaque juste après.
Ouais, c'est les collègues des assassins, quoi, qui tranquillement se permettent d'enlever la plaque.
Ouais. Non, mais il y a vraiment. Mais après, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés ce week-end-là où on se rend compte que vraiment, c'est un gang, quoi. C'est un gang qui est là, qui font leur truc de leur côté. Du coup, le samedi, il y avait un rassemblement qui était appelé au Vieux-Port, dans le centre-ville de Marseille. Et la veille, la presse a interdit en fait la circulation dans les rues commerçantes alentour. Ce qui fait que, pour ceux qui voient un peu la configuration de Marseille, ce qui fait qu'en fait, quand on est au Vieux-Port, si les rues commerçantes autour sont interdites pour la manifestation, ça veut dire qu'on ne peut pas bouger, en gros. En gros, ça fait un rassemblement qui ne peut plus bouger. Mais il y a eu un peu de monde, pas beaucoup de monde. Et il y a eu un peu 2-3 trucs de cafouillage, mais il y avait quand même. Il y avait quand même du monde, c'était quand même bien. Ça a été l'occasion aussi pour plusieurs familles de différentes proches de victimes là, qui ont pu se retrouver un peu dans l'occasion. Il y avait la famille El Abdani là, de Bilal qui était mort au Beaumet. Il y a la famille de Souhel El Raloufi qui est mort aussi cet été dans un quartier de la Belle de Mai, là, à Marseille, à cause d'un tir de flic. Et donc c'était quand même l'occasion pour ces gens de se retrouver un peu. Du coup, comme le truc était bloqué, il y a quand même eu un petit cortège qui est parti un peu en manif comme ça, donc en gros il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était bien de se retrouver ensemble, quoi.
Ouais, c'était important de leur montrer en fait 3 ans après que malgré tout la rue elle reste un peu à nous, quoi, même si ça devient de plus en plus complexe.
Ouais. Bah après sans forcément grosse volonté d'imposer des trucs, mais juste au moins de commémorer un peu cet événement là, quoi.
L'autre truc.
Voilà, ça s'est passé. Et en fait, je voulais aussi vous dire que c'était tout ça, c'est inclus dans tout un mois qui s'est passé à Marseille, là, sur violence d'État, violence policière, violence pénitentiaire. Et c'est un truc du 13 novembre au 13 décembre. Il y a eu plusieurs animations pendant ce mois-là. Il y a eu pas mal de présentations de bouquins. Ça a commencé en fait, ça a commencé le premier week-end de mi-novembre là avec la famille de Swill qui a fait plein de sur les 3 jours là, il y a eu pas mal de rassemblements et un peu de visibilisation de ce qui s'est passé. Lui c'est pareil, hein, c'est un gamin qui a été tué, il avait 19 ans, il a été tué au mois d'août là dans le centre-ville de Marseille, enfin pas très loin du centre-ville. C'est un policier stagiaire qui lui a tiré dessus pendant un contrôle routier là. Et voilà, il est mort quasiment sur le coup, avec aussi tout un truc hyper long pour appeler les secours, tous les voisins qui étaient là autour, c'est des scènes qui ont été. Donc il y a quelques vidéos où on voit les voisins qui veulent appeler les secours et tout, quoi, et les flics qui bloquent un peu le truc. Donc, un rassemblement les premiers week-ends, au mois de novembre. Et on a fait aussi une présentation avec des copains de l'envolée. Je fais un peu d'autopromotion, mais le bouquin sur la peine de mort qui n'a jamais été aboli, qui a été présenté aussi sur les violences pénitentiaires, des éditions du Bout de la Ville. Et
on rappelle pour tous les gens qui sont à l'intérieur de ne pas hésiter à nous écrire. On l'envoie gratos. Faut pas hésiter à nous le demander.
Soit à nous, soit aux éditions du Bout de la Ville directement, mais en tout cas, ça arrivera, quoi.
Bah ouais, carrément.
Et c'est cool de voir qu'à Marseille aussi, il y a un peu cette rencontre entre les familles qui ont subi des meurtres policiers et ceux qui ont subi des morts de la pénitentiaire, que ça soit sous les coups des matons ou par le fait de l'enfermement.
Ben ouais, en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de familles, plein de gens en France qui passent par ces épreuves-là. Et en fait, ça aide vraiment de se mettre en contact avec des gens qui sont passés par les mêmes expériences, quand des gens qui se retrouvent un peu à chaud dans des histoires comme ça, c'est bien aussi d'avoir des gens autour qui sont passés par là, qui ont un peu le recul, qui ont un peu une vision un peu plus froide et qui arrivent à conseiller. C'est plutôt des rencontres qui sont
hyper importantes, hein, parce qu'il faut du partage d'expérience là-dessus. Sinon, tout le monde refait les mêmes erreurs tout le temps, retombe dans les pièges que tendent la paix, les keufs et tout.
Est-ce qu'il y a un dernier petit truc que tu veux nous rajouter?
Du coup, je vais en profiter pour annoncer là ce week-end. Il y a des trucs encore qui se passent. Là, c'est le dernier week-end là de ce mois contre les violences policières pénitentiaires. Demain à Boulevard Longchamp à Marseille, pour ceux qui peuvent, c'est au local de Sud Solidaire. Il y a des ateliers de réflexion là sur la surveillance et le droit au renseignement. Et le collectif du soutien du 8 décembre qui sont là, donc les gens Libre Flow, la lettre dont vous avez parlé au début de l'émission, qui sont là pour faire une présentation à 15h30 demain. Et sinon, il y a aussi deux, trois petits événements, ça va être dimanche aussi, demain soir et dimanche, où c'est là, du coup, c'est le week-end, c'est plutôt sur les violences aux frontières, donc aussi violences d'État, mais plutôt sur des histoires de migration et de violence aux frontières. Voilà. Donc il y a notamment un grand rendez-vous à la plaine, là, dimanche après-midi. Et voilà.
Écoute, c'est dommage qu'on soit rediffusé sur Radio Galère seulement le lundi soir. Mais en tout cas, pour les gens qui nous écoutent sur Internet et puis qu'on puisse entendre les infos et puis qui sont à l'extérieur, qui peuvent se déplacer. Voilà. Merci beaucoup, Greg, d'avoir passé un petit coup de fil.
Ouais, ça fait plaisir.
À très bientôt.
Bisous.
Bis, ciao, ciao. On passe un petit coup de musique.
Stop, I'm scared. Fuck 12, bitch, I got the nerves. Fuck 12, bitch, they get on my nerves. Ay, fuck pig, fuck bacon. I don't eat pork, I replaced it. Fuck you and your slave ship. You supposed to be free like the Masons. I'm tired of being tied. I'm tired of being shot at like a eye. Calling all the foolies from the tribe. We on some fuck the police shit, it's the vibe. I hate when they handcuff me. Tough with the vest and the gun, he think he cheap. I hate when they handcuff me, acting tough, calling for backup. I think he weak.
Fuck the police, 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 fuck the police.
Two cops, they on a mission.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission au l'envolé comme tous les vendredis soirs. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 et au
07 53 10 31 95. Eh bah dis-nous, on va falloir l'apprendre. Hein.
C'est le nouveau, c'est pour ça. Et pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez être abonné, tout ça, il y a un prochain numéro qui arrive. Donc n'hésitez pas. Enfin voilà, faut y aller maintenant. Voilà, on va reparler de cette histoire dont on a déjà pas mal parlé la semaine dernière, pour laquelle je rappelle qu'il y a 3 podcasts qui sont en ligne sur le site de l'Envolée où ça a été. On a parlé à la fin de chaque procès. Donc on était au procès de 7 matons qui ont tué Sambali à la tôle de Saint-Martin-de-Ré il y a 5 ans. Voilà, et qui passait en procès pendant 3 jours en correctionnel. Voilà, et non aux assises comme c'était désiré par la famille.
En fait, ce qui était désiré par la famille, c'est que ce soit reconnu comme violence volontaire ayant entraîné la mort d'eux. Ça passe aux assises, mais on s'en fout du type de procès. C'était qu'ils ne soient pas jugés pour homicide involontaire, parce qu'en fait, ce n'est pas un homicide involontaire, ils l'ont buté. Donc, juste à un moment, voilà, c'était une blague, quoi, cette qualification.
Donc, pour rappeler ce qui s'est passé, vous pourrez écouter pour que ça soit un peu plus précis, enfin un peu plus développé dans les autres émissions. Sambali, ça fait quelques jours où ça va pas trop et tout ça, et il demande de l'aide et personne lui en apporte. Voilà, et à l'intérieur de la détention, les matons considèrent que c'est un poids à gérer, donc ils font le choix de le remettre au mitard. Et donc, ils vont essayer de créer des petits incidents avec lui pour réussir à le foutre au mitard. Et ça va se passer au moment de passer un portique pour aller au médical, où il y a un maton qui, alors que lui demandait à ce que le maton passe à l'intérieur du portique en premier pour s'assurer que, selon cette, enfin, pour lui, qu'il n'était pas envoûté, voilà, le maton, comme seule réponse, s'est dit non, en fait, je vais le tirer, je vais le faire passer directement, alors que ça n'aurait eu aucune espèce de sûreté.
Ça, c'est ce qu'il raconte.
Oui, ça, c'est
ce que raconte le maton, hein, parce qu'en réalité, plus probablement, ils lui sont tombés dessus quasiment direct. En fait, et ils ont, parce que eux, ce que racontent les matons, c'est que Sambali, lui, il refuse de passer sous le portique et il se colle contre le mur. Et il dit, moi, je passerai pas le premier, quoi. Et eux, en fait, leur réaction, c'est de lui tomber dessus, dont un maton qui fait 140 kilos qui lui tombe sur le dos, quoi.
Et qui va lui faire une clé d'étranglement.
Ouais, enfin, qui va essayer en tout cas.
C'est ce qui semble être. Mmh. Voilà. Et donc, comme dernière solution, hein, ce qu'expliquait bien Sylvia la semaine dernière, c'est le dernier truc que tu peux faire. Sambali va le mordre. À partir de là, ça donne tous les arguments pour pouvoir. Je ne sais même pas quel terme employer, parce que agresser, ce n'est pas suffisant. Torturer Sambali. Ils vont tomber à 5 dessus. Voilà.
Au moins à 5.
Très rapidement, ils vont décider de lui mettre un baillon, alors que cette technique est interdite depuis 2006. Voilà. Ils vont le faire descendre 3 étages, continuer. Donc là, il est face contre terre, avec le poids de 5 matons sur lui.
Menotté dans le dos, entravé aux jambes, et avec un espèce de maton à tête de fave qui lui a mis une serviette sale dans la bouche et qui lui tire la tête en fait en arrière, avec un espèce de mi-baillon, mi-mort, quoi, comme il dit le maton. Quoi.
Il parlera de mort, ouais. Et voilà, donc là, il va attendre 15 minutes à ce qu'ils appellent la lingerie. Voilà, donc dans cette position, il va se prendre en plus un coup de pied. Enfin, bien sûr
qu'il s'est mangé
d'autres trucs, mais en tout cas, à ce moment-là, il y a plein de gens qui disent qu'il y a ça. Et après, derrière, ils vont le, comme ils disent, charger dans un fourgon où ils vont le mettre en fait entre l'espace qu'il y a entre les sièges et puis le siège avant et le siège arrière, quoi, globalement. Enfin, même si là, c'est une plaque, voilà. Et ils vont faire... Donc là, ils vont être à 3 sur lui. À ce moment-là, voilà, et donc là, ils vont faire, je crois que ça dure 5 minutes le passage, voilà, pour l'amener au quartier disciplinaire. Là, ils le sortent, ils l'amènent dans la coursive du quartier disciplinaire. Donc, il est toujours entravé, bâillonné, menotté en arrière. Donc là, ils décident de faire ce qu'ils appellent une fouille, ce qui est juste, enfin voilà, je ne sais même pas comment on l'appelait, mais en tout cas, ils le défroquent, quoi, tout simplement. Voilà, à ce moment-là, ils constatent que. S'est déféqué dessus. Voilà. Mais ça n'alerte pas du tout, hein, parce que, donc, comme le diront certains matons, il y a des gens qui utilisent la merde comme un moyen d'attaquer les surveillants. Voilà. Donc, ils vont le foutre. Pantalon aux chevilles, bâillon dans la bouche, au mitard, sous le lit du mitard.
Avec les jambes entravées, parce qu'il y a un maton qui explique. Que non seulement ils mettent la tête des gens sous le lit du mitard pour que s'ils se relèvent, ils prennent le coup sur la tête, mais qu'en plus ils leur scotchent les jambes pour que le mec, s'il a envie de se relever, il galère, quoi. Enfin, donc c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, en fait, Sambali, il est déjà mort. C'est quasi sûr, tous les experts légaux là, qui ont été appelés dans l'enquête, ils le disent, il est sûrement mort au moment de la fourgonnette, au maximum, mais il est peut-être même déjà mort avant, en fait. Parce que quand t'as plusieurs matons qui sont sur toi, qu'en plus t'as un bâillon dans la bouche, et que tu es en position entravée avec les menottes dans le dos, bah, c'est quasiment impossible de respirer, quoi.
Et par rapport à ce que tu disais, parce qu'en gros, mais ça vous l'avez dit la semaine dernière, les matons qu'on va entendre les deux premiers jours du procès, ils vont reconnaître, effectivement, c'est pour ça que tu dis quand même, c'est des violences volontaires, c'est ils vont reconnaître que pendant les 40 minutes où ça a duré toute la scène que tu viens de décrire, eh ben, ils n'ont pas relâché une seule fois la pression, ils ont tenu le bâillon serré pendant ces 40 minutes, et l'expert, effectivement, va dire que oui, bah, c'est le bâillon, la personne qui l'écrase, enfin tout ça, qu'il est mort d'asphyxie due à tout ça. Et eux, clairement, ils vont dire, mais en fait, ça, on l'a déjà fait plein de fois, comme le fait de foutre la tête sous le banc quand on place quelqu'un au QD pour éviter qu'il se relève trop vite. C'est nos pratiques normales, et quand même, c'est un des trucs qui ressort quand même des deux premiers jours. C'est des gens qui disent tout à fait, oui, bah, c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est...
Ouais, ça a été récurrent même sur ce qu'ils appellent le chargement. Voilà, c'était pareil, c'est quelque chose qui est complètement interdit.
C'est tellement employé par les matons qu'en fait, dans l'acte de procédure de la justice, là, ils parlent aussi de charger le prisonnier. C'est la proc qui en parle. Et du coup, en parlant de la proc, bah, nous, aujourd'hui, on voulait revenir sur sa plaidoirie. Parce qu'en fait, c'était un procès particulier, parce que nous, d'habitude, on est du côté des inculpés, et là, les inculpés, c'était des matons, quoi. Du coup, on était côté partie civile, et ça change un peu la configuration dans la pièce, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un maton qui parle, ou qu'il y a quelqu'un qui est interrogé à la barre, il y a à la fois l'avocat des parties civiles qui joue le rôle, en fait, que devrait jouer le rôle de la proc, c'est-à-dire de les mettre face à leurs contradictions en disant « mais non seulement tu l'as déshumanisé, mais en plus, ça se voit que tu mytho sur ça, ça, ça ». Et la proc qui est toujours là avec des questions en disant « ouais, c'est vrai, vous êtes déshumanisant, tout ça », laissant entendre qu'elle aussi, elle trouve ça un peu choquant, mais en n'appuyant pas non plus un truc de ouf, quoi. Et le seul sur lequel elle s'acharne, c'est Ducornou. Là, on a oublié la liste des blases, mais on essaiera de la redire à la fin de l'émission. C'est Ducornou qui est le gars qui est venu et qui a foutu un coup de pied en passant.
Mais qui, du coup, est juste passé et qui n'est pas là du tout pendant les 40
minutes.
Après,
on enlèverait ce qu'il a fait. Hein, c'est-à-dire que c'est sûrement, une grosse merde qui fout des coups de pied en passant. Quoi. Ça, c'est évident. Mais par contre, en fait, les matons, quand ils l'ont... Parce que c'est tous les matons qui l'ont dénoncé, sinon lui, il ne serait pas au procès. Et les matons, ils l'ont dénoncé parce qu'ils ne savaient pas de quoi Sambali était mort. Et du coup, la proc. On en est là, la proc, on est au deuxième jour. Il y a eu les parties civiles qui ont parlé. On a entendu le premier jour dans l'après-midi et le matin des matons expliquer comment ils avaient buté quelqu'un, très clairement, quoi, comment ils le considéraient, mis comme un chien, mis comme un cheval, selon les adjectifs, etc. quoi. Et là, il y a la proc qui parle. Alors nous, on n'attend pas grand-chose d'une proc, on n'attend pas grand-chose de la justice en général. Par contre, elle a réussi à totalement inverser... tout ce qui s'est passé pendant ce procès, quoi. C'est-à-dire que après on va reprendre peut-être plus précisément, mais en fait elle commence sa plaidoirie par dire tout ça c'est déshumanisant, tout ce qu'on fait ces gens-là c'est déshumanisant, etc. Ça j'en suis d'accord, mais par contre elle se tourne vers la famille, quoi, donc les proches de Sambali, et elle dit vous êtes au niveau des proches et donc vous attendez plein de choses de la justice, mais moi je suis au niveau du parquet. Et du coup, évidemment, la traduction de ce que vous avez vécu dans des mots judiciaires, eh ben, pour vous, ça va être douloureux. Et donc, en fait, elle est en train de préparer la famille au fait qu'elle va faire une réquisition très léger.
En fait, quand elle dit « moi, je suis au niveau du parquet », ça veut aussi dire, mais ça c'est un truc qu'on disait, elle travaille dans ce tribunal, quel tribunal qui bosse avec la prison de Saint-Martin-de-Ré, qui en fait, elle se retrouve souvent avec ses matons qui lui amènent des prisonniers pour les juger, enfin un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est même elle qui a transféré Sambali voilà. en fait à Saint-Martin-de-Ré.
C'est elle qui a mis Sambali en prison, c'est elle qui a condamné Sambali.
Enfin qui a fait condamner quoi, qui a fait la réquisition. Donc voilà, et donc c'est cette proc là. Et en fait elle utilise un truc, parce que nous la déshumanisation c'est un truc dont on parle très souvent en fait dans cette antenne. On explique comment l'administration pénitentiaire, bah, comme la lettre de Kémy elle raconte très bien en début d'émission, l'administration pénitentiaire elle peut déshumaniser totalement des gens quoi, et les considérer vraiment comme du stock, du flux à gérer, etc. quoi. Et elle en fait elle retourne ce truc là pour dire ah ouais ok, vous avez déshumanisé cette personne, mais vous même en fait vous étiez déshumanisé par une espèce de bureaucratie déshumanisante blablabla blablabla, et donc vous n'êtes pas responsable.
Ouais, c'est ça,
globalement
c'est...
de ce qui s'est passé quoi.
Bah, en fait ce qu'elle dit c'est ça, donc elle reprend en disant vous avez déshumanisé Sambali et vous l'avez tué en le déshumanisant, mais finalement c'est votre métier qui vous impose en fait un traitement déshumanisant de ces personnes, et c'est ce qui fait que vu que vous l'avez déshumanisé, vous n'avez même pas réalisé que vous étiez en train de tuer un être humain, et donc ça devient pour elle une raison de dire vous n'êtes pas coupable en fait d'avoir volontairement infligé la mort, vous faisiez des prises pas clairement réglementaire, pas complètement légal peut-être, mais en fait vous étiez en train de faire votre travail et vous l'avez, et donc le problème c'est que votre métier vous fait perdre conscience que c'est des êtres humains que vous traitez.
Et je pense que ça, c'est vraiment un truc hyper important, ce qui s'est passé à ce moment-là dans le tribunal, et que elle, donc en tant que proc, donc représentant du ministère de la justice, et voilà,
où travaillent les matons,
voilà où travaillent les matons, apporter, parce que en fait quand il y a ce type de procès sur les flics, on n'arrive pas à ce niveau-là d'indécence. Voilà. Et malheureusement, je crains que cette manière de lire les choses va être nouvellement réutilisée. Parce que la proc, elle a eu bon ton, en fait. Elle a gardé son humanité vis-à-vis de la famille, soi-disant, en disant qu'elle comprenait complètement quelle était son émotion, que l'émotion de la famille, qu'elle était très contente qu'il y ait eu ce procès, parce que c'était important qu'il y ait publiquement, qu'on montre ce qui s'est passé. Voilà. En disant, socialement, il y a un problème. Socialement, il y a un problème. Mais nous, en tant que juges, notre problème, ce n'est pas de gérer les problèmes de la société. On n'est pas des politiques. On doit juste appliquer le droit. Et là, on va voir que le droit, il ne va pas être du tout appliqué comme nous, on le voit tous les jours au tribunal et quand on est de l'autre côté de la barre.
D'où l'importance des qualifications. Ouais, en fait, voilà, d'où l'importance que plusieurs mois en fait, avant ce procès, il y a une bataille avec le juge d'instruction parce que le dossier, il est plutôt complet. Hein. C'est-à-dire, il y a des matons qui se poucavent entre eux, il y a tout un tas de témoignages, il y a les experts légaux qui expliquent que c'est les matons qui l'ont tué, le dossier, il est complet. En fait, la bataille, elle se joue sur les qualifications juridiques parce que les gens, ils sont poursuivis pour trois motifs. Il y en a quatre qui sont poursuivis pour homicide involontaire. Il y a les deux gradés qui sont poursuivis pour non-assistance à personne en péril. Et il y a le dernier, là, le Ducornou, qui est poursuivi pour violence volontaire, parce que lui, il a mis le coup. Et donc, en fait, ces qualifications-là, elles permettent, par exemple, la non-assistance à personne en péril, tu peux être condamné pour ça que si tu as conscience du péril. Et vu que les deux gradés, leur défense, il y en a un, c'est le chef de détention, donc c'est monsieur Olivier Breton, si je dis pas de conneries. Lui, son truc, c'est de dire « Ah non, mais moi, je dois gérer la détention, donc je suis là que à certains moments, donc j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. »
Puis, savais que c'était interdit.
Voilà, je sais que c'est interdit.
Je sais que c'est interdit, je sais que c'est dangereux, mais par contre, je sais pas qu'ils ont pas enlevé le baillon, donc c'est pas de ma faute.
Parce que j'ai fait un regard réprobateur.
Voilà.
Parce qu'on parle pas en intervention, on fait des regards réprobateurs. Voilà. Non, en vrai, c'est ça, hein, sa défense à ce gars-là, quoi. Et donc, juste pour dire aussi, hein, parmi les 7 matons, il y en a 5 qui travaillent toujours à Saint-Martin-de-Ré aujourd'hui. Il y en a un qui a été suspendu par l'administration pénitentiaire, c'est celui qui se fait pourcaffer par tous ses collègues. Il y a le chef de détention, Breton, qui a été transféré à Casabianca, qui est une tôle en Corse. Donc voilà. Donc en fait, il n'y a pas eu de sanction interne. Plutôt, on leur a laissé en leur disant c'est bien, quoi.
Bah, en fait, et là-dessus, elle dit quelque chose comme qui est assez clair. C'est, elle dit, regardez, en fait, ce sont des bons surveillants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont transparents depuis le début. Ils disent ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai qu'en fait, depuis le début du truc, ils disent oui, je l'ai tout fait. Enfin, en gros, je vais serrer un baillon pendant 40 minutes sans relâcher, sans même me demander s'il respirait. Et elle dit, et ils ne se balancent pas les uns les autres. Et ça fait elle le dit en disant, ça, c'est des bons surveillants. Et regardez d'ailleurs l'autre, celui qui donne un coup de pied. Lui, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est le seul qui est, elle dit, c'est le seul qui a une volonté manifeste de nuire à Sambali. Et parce que lui, en plus, c'est celui qui balance ses collègues. Alors que tous les autres, en fait, ils tiennent la ligne de l'institution, ils tiennent la version sur laquelle ils se sont entendus. Et du coup, elle va vraiment trier entre les bons matons. Et comme tu dis, ça reprend aussi les sanctions disciplinaires qui avaient été foutues à l'époque, quoi.
Ouais, parce que juste, il y a un truc, en fait, qui est important, c'est que nous, on n'est pas complotistes. Hein. On ne pense pas que les avocats des matons, ils ont parlé avec la proc avant. Mais par contre, en fait, et leur défense, et et la plaidoirie, elles se répondent et elles permettent de s'alimenter l'un l'autre, quoi. Et en fait, ce que disent les matons, c'est-à-dire que tous les le mec qui a baïonné Sambali, qui a l'air d'être un espèce de tortionnaire fini, quoi, lui, il dit mais moi, j'ai essayé de protéger Sambali du coup de pied du corne, quoi. Et elle, elle reprend ce truc-là en disant mais vous voyez, peut-être que c'est un tortionnaire, etc., mais il a quand même un truc, lui, c'est pas volontaire, quoi. Parce que tous les matons, eux, leur défense, c'est de dire on est traumatisé par la morsure. Le gars, il a mordu, peut-être qu'il peut remordre, donc il faut le baïonner, quoi. Et donc, elle part de là pour dire, donc c'est pas des méchants matons. D'ailleurs, ils ont été, pour pas mal d'entre eux, ils ont reçu des éloges de la part de l'administration pénitentiaire plus tard. Ce qui veut bien dire qu'on les a validés, en fait, dans leur taf et dans leur fonction, après avoir tué quelqu'un, quoi. Et donc, toute sa plaidoirie commence là-dessus, quoi. Et elle retourne la déshumanisation en expliquant que, du coup, c'est ce qu'on disait. C'est eux qui sont victimes à la fin de cette déshumanisation parce qu'ils n'ont pas assez de formation, qui est la défense classique des matons, quoi, de dire, ah non, mais nous, on n'était pas au courant. Et elle dit même que, vu qu'il n'y avait pas de note interne pour interdire le baïonnage à l'époque, il y a une note de l'administration pénitentiaire en général qui explique que c'est illégal, quoi, mais il n'y avait pas de note interne à l'administration de Saint-Martin-de-Ré. Et elle dit, du coup, ce n'est pas de leur faute.
Ils ne savent pas.
Ils ne savent pas, tu vois.
Mais ce qui est vraiment, fort, ce qu'elle arrive quand même à faire, c'est, après, alors que ça fait deux jours qu'on entend des gens qui disent que oui, volontairement, ils ont étouffé quelqu'un, ils le disent, oui, je le faisais, elle arrive à le transformer en quelque chose de, en fait, ce n'est pas violent, elle le dit. Ce procès, c'est pas celui des violences systémiques, c'est le procès des œillères professionnelles qui génèrent une déshumanisation gestionnaire.
Je pense que tu peux le répéter dans le micro.
Ce procès, ce n'est pas celui des violences systémiques, c'est le procès des œillères professionnelles qui génèrent une déshumanisation gestionnaire. Et donc elle parle du fait qu'ils ne sont pas arrêtés, en gros, pendant 40 minutes, ils l'ont maintenu, et ça, en gros, ça serait des œillères professionnelles, et pour elle, le problème, voilà, viendrait de là. Et ce qui fait qu'elle arrive quand même à dire qu'ils n'ont pas été violents, finalement.
Parce qu'en fait, en faisant ça, juste, elle légitime la première partie, en fait. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle dit, dans sa plaidoirie, dans sa réquisition, elle dit « Ok, au début, vous avez mal réagi, c'est pas réglementaire, mais il a mordu. » Et du coup, vous étiez perdu, vous n'aviez pas assez d'outils, pas assez de formation, nan, nan, nan. Le problème, ce n'est pas que vous l'ayez baïonné, ce n'est pas que vous soyez tombé à 5 ou à 10 sur lui. En fait, le problème, c'est que c'est duré dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, a priori, il était inconscient, puisqu'il était en train de crever, et vous auriez dû arrêter à ce moment-là, en fait.
C'est encore plus fin que ça, en plus, je pense, dans l'entourloupe qu'elle a fait pour défendre son institution. Elle commence en disant « Ouais, au début, vous allez faire des actes violents qui mériteraient la qualification d'actes violents au moment où il y a la morsure et tout. » Mais à ce moment-là, c'est ce que tu disais, vu que vous êtes dans une situation où vous êtes tous un peu perdus et tout ça, on l'accepte parce qu'il faut que vous vous défendiez, quoi, globalement. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Des actes de violence, c'est des actes de violence. On n'est pas dans un cadre de légitime défense.
Ouais, puis on parle d'une morsure, quoi. Il y a un moment, en fait, juste faut arrêter de déconner, quoi.
Et après, derrière, en fait, le truc qui est complètement dingue, c'est que elle va dire après, derrière, il y aura plus d'actes de violence. Ça va juste être une erreur d'appréciation. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pas capter. Donc, il y a une situation qui s'est mise en place à travers de la violence, mais là, vous êtes légitime à la faire parce que vous êtes perdu. Et après, derrière, juste, vous appréciez mal qu'il faut arrêter d'être violent. Mais elle dit plus, c'est de la violence, quoi. Elle dit juste, vous...
C'est une erreur d'appréciation, une suite d'erreurs d'appréciation qui font d'une faute, quoi.
Et donc, elle, ça lui donne cet argument en disant, non, en fait, la qualification de violence, elle n'a pas à être utilisée. C'est hyper important parce que c'est aussi des réquisitions qui seront après derrière utilisées pour, à Adama Traoré, toutes les personnes qui se sont fait étouffer par, à Cédric Chouviat, toutes ces personnes qui se sont fait tuer par des policiers, exactement de la même manière en fait. Et ça va être réutilisé parce que, comme entre guillemets analyse juridique, c'est super fin. C'est très intelligent en fait, c'est dégueulasse, c'est ignoble, mais c'est très malin parce que ça dit juste au début vous aviez pas le choix, et après derrière c'est juste que c'est pas vous avez recommis un acte, c'est vous avez laissé perdurer quelque chose. Et moi je voulais revenir aussi sur le fait que elle a dit que les matons étaient transparents, principalement parce qu'ils vont poucave un de leurs potes. Un de leurs collègues en tout cas, parce que je pense qu'ils n'étaient pas vraiment potes, parce qu'on a parlé un peu de la guéguerre syndicale qu'il y avait autour de tout ça. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie, parce que j'ai pas vu tous les PV et tout ça, mais en tout cas, ce qu'on a vu pendant ce procès, c'est qu'à aucun moment, il a été cherché de remettre en cause les différentes paroles de chacun. Dès le début, que ça soit le juge ou la proc, alors que dans un procès normal, quand on, que nous, on a l'habitude de subir, toute l'idée, c'est de réussir à faire en sorte de mettre en lumière que les gens qui se sont mis d'accord sur une version des faits, en fait, ont mitonné. Là, on n'a pas vu ça du tout. Voilà.
Alors qu'ils disent clairement qu'ils ont eu un débriefing juste après le meurtre, où on les a félicités pour leur travail, et que le soir même, ou le lendemain, ils ont un nouveau débriefing où on leur dit « Attention, il est mort, il risque d'y avoir des assises ». Et donc, il nous faut une version collective, la vérité, Crary.
Mais enfin, et il y a des plaintes qui sont déposées dans les jours d'après, justement, pour préparer cette version qui est en train d'être...
Le jour même, il y a le maton là, qui s'appelle Guéno, celui qui se fait mordre, là, qui pèse 140 kilos et qui est en train de l'étouffer au début. Le jour même, lui, il va à l'hosto et il va porter plainte contre Sambali, quoi.
Et là, elle va après, donc ça va pendant tout le procès, donc ils ne vont pas chercher à faire ça. Et après, derrière, en fait, elle va nous décrire... quasiment une justice un peu parfaite, en fait, tu vois, qui va vraiment chercher quelle responsabilité, voilà. On sait que c'est jamais une justice comme ça qui est appliquée. Jamais, 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 jamais. Mais là, pour les matons, parce qu'ils font partie de la même administration, de la même manière que pour les keufs, hein, enfin, voilà, c'est toujours la même chose. Là, on va faire une justice un peu... l'image que la justice aime se donner, voilà, quand elle dit « Non, mais vous avez vu, on essaye d'être sérieux, de faire les choses bien, de ne pas être juste dans le répressif. » Elle va le dire elle-même. Elle va dire « On doit faire une analyse fine, ne pas mettre tout le monde dans le même sac. » Comme s'il n'y avait pas de la bande organisée, comme s'il n'y avait pas de la coaction. Tous ces principes...
Elle dit aussi de ne pas chercher des boucs émissaires. C'est quand même pas mal de la part de la justice de dire ça, quoi.
Enfin, oui, elle dit à la justice « C'est pas chercher des boucs émissaires, ouais. C'est pas faire des prix de gros. » Enfin, ce qu'on fait d'habitude, mais en gros, là, forcément, on va pas pouvoir le faire.
Tu parlais d'Adama, mais par contre, il y a eu des assises pour les personnes qui sont révoltées après Adama. Il y en a plusieurs qui sont passées aux assises 5 ans après les faits. Et eux, ils ont eu le droit quand même à un prix de gros pendant 5 ans en étant en détention provisoire. Ils ont eu le droit au statut de bouc émissaire sur tout ce qui se passait. Et là, c'est marrant, quoi. Enfin, comment elle arrive à renverser la situation pour tout d'un coup se parer dans les trucs de justice et innocenter ces gars-là. Enfin, c'était indécent, quoi.
Et eux, ils prennent tentative, il me semble, d'homicide pour un truc où il n'y a même pas de blessure grave. Quand même. Enfin, ça montre bien quand même les deux poids deux mesures.
Oui, et puis en plus là c'était aussi pareil, c'était exactement sur la question de la qualification juridique.
Ouais, parce que séquestration en réunion avec baïonnage et mort qui en suit, je pense que quand t'es pas maton, tu finis aux assises et tu prends des lourdes peines, quoi.
C'est clair. Et donc ouais, ils vont pendant tout ce truc en fait chercher à déresponsabiliser les matons et aussi à dire c'est de la faute d'autres personnes. Mais ils sont pas dans le box, donc on n'y peut rien, quoi. Voilà. Et donc elle dit, bah voilà, c'est de la faute du médical qui est mal intervenu. C'est aussi de la faute. Alors ça, c'est pas de la faute des autres matons qui étaient présents au moment de l'arrivée de Sambali au mitard, parce qu'à ce moment-là, Sambali il est mort. Ils le savent pas. Hein. Ils le savent absolument pas.
Officiellement, en tout cas.
Mais voilà. Mais donc, vu qu'à ce moment-là, eh ben, en fait, on arrête. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des trucs. Le fait qu'il souille son corps. Enfin, en fait, il y a des qualifications juridiques là-dessus. Enfin, voilà. En fait, s'ils avaient voulu, ils auraient pu. Mais et donc, il y a tout ce truc de dire, en fait, non, par le fait de mettre le baillon. Par le fait de, voilà, on a pas mal développé dans les autres émissions le fait que les surveillants pendant leur réquisition, je sais pas comment le dire, mais quand ils parlaient, quoi, ils disaient moi je m'occupais du bras droit, du bras gauche, de voilà, et il y avait personne qui s'occupait du tout. Et ben là en fait elle, ça va lui donner des billes pour dire bah non, mais vu que un tel, on aurait dû prendre les noms, mais un tel il s'occupait que de la jambe droite, en fait il est pas responsable de ça. Et elle osera quand même dire qu'il n'y avait aucune volonté de nuire de la part du baïonneur, alors que lui-même explique qu'au bout de 10 minutes, il avait les mains qui étaient tétanisées, qu'il va aller chercher du scotch, que le scotch ne va pas tenir et qu'il va reprendre pour tenir encore 25 minutes. Voilà, donc c'est complètement hallucinant. Et sachant que, et ça c'est un truc de ouf, et pareil, dans n'importe quel autre procès, les juges auraient essayé de gratter, le fait qu'on sait qu'il est mort, donc ça veut dire qu'on sait qu'il ne bouge plus, et il continue à dire « Non, non, on avait peur ». On avait peur qu'il continue à nous mordre, alors que il était inerte, c'était obligatoire qu'il était inerte. Il n'y a aucun juge pendant tout ce procès, que ce soit la proc ou autre, qui n'a posé cette question-là. C'était hallucinant.
Bah, en tout cas, ça fait bien flipper parce qu'il y a d'autres histoires qui sont en cours là, de violences pénitentiaires où il y a des gens qui sont morts et il y a des familles qui se battent et il commence à y avoir des dossiers béton. Moi, je pense à la famille de Jimoni dont on parlait, ça va être les 1 an de la mort là, en janvier. Et en fait, ça, je ne sais pas si pour les keufs, ça donnera beaucoup de trucs parce qu'en fait, les keufs, ils n'ont pas la même défense. Généralement, ils ne reconnaissent pas que c'est des meurtriers. Quoi. Alors que là, les matons, ils avaient l'air quand même plutôt décomplexés sur la question. Mais par contre, ça, c'est sûr que ça va donner des billes pour les défenses des matons de Meaux où ils ont tué Jimoni et pour toutes les autres histoires qui en ce moment sont en cours où il y a des familles qui se battent pour essayer de ramener ça sur le terrain judiciaire quoi.
Et donc en tout cas voilà ça,
on va peut-être donner les réquisitions.
Voilà c'est ça.
Ouais, en gros la proc elle demande déjà la relax de 3 personnes pour commencer. Donc les 2 gradés dont on a dit un il n'était pas assez là et l'autre carrément elle était trop incompétente pour pouvoir savoir ce qu'il fallait faire et en plus elle avait pas d'autorité donc c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en fait vu que les matons ne savent pas apparemment qu'un baillon peut tuer bah ils sont exonérés du fait d'avoir voulu tuer bah, et de
c'est la première fois qu'une défense où tu joues la carte de la débilité ne fait que tu prends pas 3 ans de plus de prison quoi. Non mais c'est hallucinant enfin d'habitude quand tu es en tribunal et que tu dis au juge mais je suis pas conscient de ce que j'ai fait je pensais pas que cette tarte allait tuer cette personne ou quoi que ce soit en fait tu manges 3 fois plus et là ça devient carrément dans les réquisitions de la proc pour atténuer l'effet quoi enfin
Et donc, ces 2 personnes, c'était les personnes...
C'est les Bretons et Boursou.
Boursou. Et Bersou. Qui étaient les 2 inculpés de non-assistance à personne.
Voilà. Et Bersou, depuis, elle a été promue major et elle travaille toujours à Saint-Martin-de-Ré. Voilà.
Et la troisième relax, c'est... il me semble que c'est un maton qui est dans le... Justement, qui est dans l'utilitaire, qui fait le trajet, mais qui ne fait rien, qui, en fait, ne touche pas...
Il est aux jambes, lui. Et dans les souvenirs, il est.
Non, je crois que lui, justement, il me semble qu'elle, il y a relax parce qu'il n'intervient pas. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie des gens. Il voit quelqu'un se faire tuer, il n'intervient pas, mais on ne savait pas. Mais en fait, là, du coup, il n'est même pas considéré comme complice ou quoi que ce soit, juste comme quelqu'un qui ne savait pas que quelqu'un qui ne respire plus est mort. Et donc, après, comme on disait, elle va réussir à diluer la responsabilité de la mort de Sambali entre les différentes personnes. Donc, il y a le Rajeunot, là, le tortionnaire dont on parlait, qui a tenu ce baillon pendant 30-40 minutes. Elle, donc, qui est quand même celui qui vraiment va le reconnaître à la barre, enfin voilà, on va tous le voir, elle va lui demander 24 mois avec sursis. Donc pour lui, donc, la plus grosse peine, comme celui qui aurait eu le plus d'impact, le plus de responsabilité sur la mort de Sambali, et une interdiction de paraître à Saint-Martin-de-Ré pendant 3 ans.
Voilà. Et en fait, ce truc-là, c'est grave. Parce que ce que demande la famille, juste faut le rappeler, c'est que dans les médias et tout, ils ont quand même parlé du fait que la famille, elle demandait des thunes, etc. En fait, quand tu es en genre de procès et que tu es partie civile, tu es obligé de demander des thunes, tu vois, sinon tu participes pas au procès. Mais c'est pas l'enjeu pour la famille. Pour la famille, le principal enjeu, c'était non seulement que ce soit reconnu comme des violences volontaires de la part de la justice et que, en fait, ces matons, ils soient interdits d'exercer.
Et
c'était ça la demande, mais claire et nette. Quoi. La famille, elle l'a dit en fait à la barre. Et même ça, elle n'est pas capable de le foutre. Et quand elle met 3 ans d'interdiction de paraître à Saint-Martin-de-Ré, ça veut juste dire que si c'est appliqué, hein, parce qu'il n'y a pas encore le délibéré, je crois que c'est le 16 janvier, ça veut dire qu'il devra être juste transféré dans une autre tôle. En fait.
Il pourra revenir après.
Il devra muter et il reviendra après.
Et donc ensuite, elle continue, et donc toujours dans l'idée que chacun est responsable de juste la partie de la mort correspond à la partie du corps qu'il était en train de serrer à ce moment-là. Il y a les Cormier et Lefebvre, donc qui tenaient, je crois, les jambes et les bras. Et
ils se sont inversés, ouais.
Ils se sont inversés à un moment.
Le Cormier, c'est le gars dont on parlait la semaine dernière, qui en fait est l'espèce de jeune qui, lui, sa défense, c'est moi, je fais les ordres. Et donc quand il répond à la juge, il dit négatif, madame, enfin vraiment ouais, genre un discours militaire un peu bizarre, quoi.
Et donc contre eux, elle demande donc 18 mois avec sursis. Une interdiction de port d'armes, pareil, limitée dans le temps, et aussi une interdiction de paraître à Saint-Martin-de-Ré, pareil, pendant 3 ans, un truc comme ça. Et le dernier, donc c'est le Ducorneau, celui qui a foutu le coup de pied qui a été balancé par ses collègues, lui, elle demande 12 mois avec sursis, l'interdiction de porter une arme, et c'est le seul à qui elle demande aussi qu'il ne puisse plus exercer en tant que surveillant, sachant que c'est le seul qui est déjà en fait...
En fait, l'administration pénitentiaire l'a suspendu 5 ans avant. Ce qui veut dire, pour cette histoire de coup de pied, quoi. Donc il a été lâché par tous ses collègues, et du coup, lui, il a pris 5 ans de suspension, il est actuellement en recours au tribunal administratif pour essayer de régler ce truc-là. Donc en fait, elle suit juste la sanction de l'administration pénitentiaire qui se passe quelques mois après les faits, avant même qu'il y ait une enquête sérieuse, genre avec un expert, quoi.
Donc pour lequel elle demande qu'il soit suspendu de ses fonctions, c'est le seul qui n'est pas direct. Enfin, il a foutu un coup de pied encore une fois, hein, c'est sûrement une ordure. Mais c'est le seul qui n'a pas directement participé à la mise à mort de Sambali. Enfin, c'est quand même un truc de fou, quoi.
Et donc, ouais, c'était 24 mois avec sursis pour le bayonneur. Voilà, avec pareil, c'est le même truc d'interdiction de paraître à Saint-Martin.
Ouais. Et c'est d'ailleurs Ducorneau, c'est le seul où tu vois en fait à nouveau la proc redevenir une proc un peu comme on les connaît, quoi, avec du mépris de classe, parce que tous, ils sont, genre, ils ont pas l'air d'être non plus ni des lumières, ni d'avoir un bac plus 5, ni de gagner des thunes, quoi. Enfin, et du coup, c'est le seul moment où elle redevient en fait une proie, quoi. Avec une justice de classe, avec un truc de mais en fait, t'es con, donc tu vas prendre plus cher. Et en fait, c'est le moment où elle redevient elle-même, quoi.
Enfin, on a quand même le droit au salaire des surveillants et ça va, ils gagnent un peu de thunes quand même.
Ouais, ouais. C'est mais c'est le seul en fait qui gagne juste 800 balles par mois, quoi. Sinon, il gagne.
Ah bah, maintenant, lui, il gagne 800 balles par mois parce qu'ils l'ont foutu au chômage, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, on en reparlera quand il y aura le délibéré, ouais. Et tout ça, même si on a très très peu d'attentes. Enfin, on en a même aucune. Voilà. On va passer un petit coup de zik.
Bust down, roll a dash, fuck a ice grill. Flood another nigga block off of White Hill. Spin your block, 100 shots, that's a light drill. Plugged on the trillion watch, check my light bill. He thought he had a pint of wok, bought some NyQuil. Flood another nigga block off of White Hill. Spin your block, 100 shots, that's a light drill. Plug on the trillion watts, skid it. Block, feel like my will. Pay the highs, nigga, pull up with the right peel. Brody tripped up with some blues and like five seals. Bring them through, shit, just make sure that the pint's real. Pipe race in the big, spinning up the heart. Me and Jack in the D's with 300 lures. 600 R's in the hell, your confetti wop. Made it four quarters, had to hit him with the ready rock. Splash with the cold water, that's a belly flop. Crack the Rex, had to whip it in the jelly jar. Put the bricks in the trunk, then we trail a car. Tell a girl he followed that cab, it got dope in. I'm like Kobe with the 8 if it's bold business. Cook a whole situation, 24 minutes. Chain heavy as my bed, quarter brick of glass. Quick to burn the turnpike with a brick and a half. Bust down, roll a dash, fuck a ice grill. Flood another nigga block off of White Hill. Spin your block, 100 shots, that's a light drill. Plug on the trillion watch, check my light bill. He thought he had a pint of wok, bought some NyQuil. Flood another nigga block off of White Hill. Spin your block, 100 shots, that's a light drill. Plug on the trillion watts.
Keep it 100 like a tenth of a bird, that's my word. Restoration hardware in the crib, playing the curb, bought the furniture. Who, what, when? I never heard of ya. You're a soft nigga, make believing you're a murderer. I'm a gangster, pretending I'm not one. But truth be told, y'all niggas can still catch a hot one. I came up with criminals, killers, and krill servers. Diamond cover bracelets, crushed linen, can still burn us. Everything I spit is facts, 20 years back. Me and Stacks was up in Uncle Jack's, eating off packs. Did it all from the Lax to the Axe, to the Beamers, to the Benz. Made a lot of money, lost a couple friends. But for the most part, I'm good with everybody I knew. Sometimes communication dwindles, cause the way that we grew, that's just life shit. Now we back on some gun and knife shit. Playing defense, cause predators be on the night shift.
Bust down, roll a dash, fuck a ice grill. Flood another nigga block off of White Hill. Spin your block, 100 shots, that's a light drill. Plug on the trillion watch, check my light bill. He thought he had a pint of wok, bought some NyQuil. Flood another nigga block off of White Hill. Spin your block, 100 shots, that's a light drill. Plug on the trillion watts, skid it.
De retour sur l'envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Pour nous appeler donc en direct, c'est le 01 40 05 06 10. Et le reste du temps, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on ne sera plus en direct jusqu'à la rentrée, ça sera au 07 53 10 31 95.
Ouais, n'hésitez pas à envoyer un texto et tout, parce que la messagerie, des fois, c'est un peu chiant à écouter. Ouais, je dis juste.
Et pour nous écrire, donc, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp.
Bon, on voulait revenir rapidement. Bon, comme d'hab, on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on voulait dans l'émission. On voulait revenir rapidement sur le fait que là, ça fait quelques semaines que c'est en train à nouveau de se tendre dans les centres de rétention. La semaine dernière, on avait passé un témoignage d'un prisonnier guinéen d'un prisonnier à Vincennes qui s'était fait expulser en Guinée et qui racontait un peu et les violences au Ménil et comment ça se passe une expulsion sans test PCR dans un pays où il vient d'avoir un coup d'État. Et là, en fait, cette semaine, il y a eu un mouvement au Ménil-Amelot collectif, je ne sais plus dans quel CRA, où il y a eu des banderoles qui ont été sorties en demandant la liberté pour tous. Il y a eu un parloir sauvage en réaction à l'extérieur pour apporter de la force et montrer que là, il y avait du monde dehors. Et il y a eu à Vincennes, qui est l'autre grosse prison pour sans-papiers d'Île-de-France. En gros, ça fait partie des deux plus grosses prisons pour sans-papiers de France. Hein, c'est 240 places chacune. Et à Vincennes, c'est tout un bâtiment qui s'est révolté, où il y a pas mal de caméras, d'outils qui ont sauté. En gros, les prisonniers demandaient à ce qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas envoyé au mitard.
Pour moi, il y a deux. Enfin, peut-être que je comprends. Mais il me semble qu'il y avait en fait un vol charter, enfin un vol collectif qui devait partir et que des gens qui étaient prévus dans ce vol se sont révoltés. Et donc, on pas mal attaqué le bâtiment en s'en prenant, effectivement, en essayant de faire attention à s'en prendre aux caméras parce qu'on sait qu'il y a eu plein de fois en fait des mouvements à l'intérieur qui se sont fait réprimer après coup sur la base des caméras. Mais en gros, les keufs, le CRA de Vincennes, on en a déjà parlé, hein, c'est dans l'école de police.
De Joinville-le-Pont.
De Joinville-le-Pont. Et donc, en gros, ils ont appelé plein de renforts et ils sont venus, ils ont bien démonté les gars, ils ont réussi à les mettre dans l'avion. Donc, du coup, ça, c'est des trucs dont on a parlé aussi quelques fois et qui ont été relayés sur Abat les CRA. C'est l'usage qui est courant, mais qui, là, en ce moment, aussi revient à la sortie du confinement, d'avions qui partent, d'avions charter. En gros, on va mettre plusieurs personnes d'un même CRA pour les envoyer vers une même destination.
Ouais. En gros, la préfecture, la police aux frontières, elle a des contrats avec au moins deux compagnies et ils font des vols réguliers, soit intra-européens, donc pour toutes les personnes qui sont dublinées. C'était beaucoup le cas pour les Afghans avant cet été et toutes les histoires, mais pour permettre de les envoyer en Norvège, en Suède, où il y avait des expulsions qui étaient facilitées vers l'Afghanistan ou en Allemagne. Et en ce moment, c'est beaucoup vers la Tunisie. Et donc, il y a des vols charter toutes les semaines, avec un vol qui part du Bourget, qui après va à Marseille, et puis après part en Tunisie. Et donc, c'est des expulsions sans test PCR, où il y a des gars, des fois, ça fait 8 mois, 9 mois, qui se battent à l'intérieur, où la rétention, elle est prolongée, ils vont en taule, et la rétention est à nouveau prolongée, etc. Et à la fin, pour se faire expulser hyper salement dans une ville qu'ils ne connaissent pas pour l'essentiel, en Tunisie, quoi. Donc il y a eu cette révolte-là dont tu parlais. Et après, il y a le refus de cantine qui amène au mitard quelqu'un.
Ouais,
désolé, j'ai fusionné les histoires.
Ouais, suite à la provocation d'un keuf, il y a un mec qui se tape avec le keuf. Du coup, il se fait démonter et il se fait emmener vers le mitard. Et les gens en fait, refusent d'aller manger en protestation, en disant non, en fait, vous savez qu'il ne va pas bien et tout, donc vous devez le sortir du mitard. Et en fait, ils vont, je ne sais plus la fin, mais en gros, en fait, finalement, ils vont bien sûr pas obtenir sa sortie militaire. Je pense même qu'il va sortir, il va partir en garde à vue. Et en plus, derrière, on va les empêcher finalement d'accéder à la cantine une fois que le mouvement est fini.
Ouais. Du coup, on envoie beaucoup de force aux gens du Ménil et de Vincennes, parce que c'est deux CRA où on peut être un peu écouté. Enfin, en tout cas, les gens ils peuvent nous capter avec le réseau. Et on essaiera, à partir de janvier, de redonner la parole à ces prisonniers-là. Je tiens juste à dire qu'il y a une émission là qui va dans les 3 prochaines semaines, on n'a pas encore fait tout le planning, tout ça, mais dans les émissions enregistrées, là, on est revenu avec quelqu'un qui était incarcéré au Ménil-Amelot l'année dernière, au moment où il y a eu l'allongement de la durée de rétention. C'est au moment où c'est passé 3 mois à 6 mois, 9 mois, lié au refus de test PCR et à la répression qui va avec. Et il y a eu un incendie de deux bâtiments et une grosse, grosse révolte collective en janvier dernier au Ménil-Amelot. Et donc, on revient avec ce gars-là sur en fait, comment ça s'est passé les jours précédents, comment ça s'est passé le jour même, la répression, tout ça. Et donc ça, c'est, si vous ne l'écoutez pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, quoi.
Et pour vous faire un peu le programme des semaines...
Alors, juste avant, on voulait vous parler de Lyon.
Ouais, parce que donc il y a vraiment beaucoup de CRA où ça bouge en ce moment. Et donc au CRA de Lyon, il y a eu les prisonniers, ils ont commencé une grève de la faim, je crois, cette semaine. Notamment, il y a eu plusieurs tests, 4 Covid positifs déjà. Donc en fait, à la base, il y a eu tout un mouvement en fait contre le fait, on sait bien qu'il n'y a pas eu aucune mesure sanitaire qui a été mise en place. Et on a continué à ramener des gens à l'intérieur alors même qu'ils savaient qu'il y avait déjà des cas positifs. Et puis à côté, les trucs, on parle depuis un certain temps ici, des gens en fait, qui sortent de prison, qui se retrouvent là, ou des gens qui ont fait des allers-retours CRA-prison pour des refus de test. Et donc à ce moment-là, au moment où il y a le Covid, ça fait encore plus péter le truc. Ils rentrent en grève de la faim, il y a une énorme répression, les keufs s'équipent, règlent ça à la lacrymo, à la matraque, ils envoient des gens à l'isolement. Il me semble qu'il y a même des gens qui du coup là, vont commencer à passer devant le tribunal pour ces histoires. Et il y a un parloir sauvage qui a eu lieu en soutien à ce mouvement à l'extérieur du CRA de Saint-Exupéry.
Ouais, et vous pouvez retrouver la parole de, des premiers concernés qui sont révoltés là-bas sur cramtoncralyon.noblog avec un s.org. On permet de se redire juste vite fait qu'il y a abalekra.noblog avec un s.org aussi. Et que tout ça, c'est des assemblées ou des collectifs qu'on peut rejoindre si on a envie de soutenir les prisonniers et prisonnières en centre de rétention. Et que de la même manière que ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire que bah, la fin d'année, c'est toujours un moment qui est particulièrement vénère quand tu es enfermé. Parce que c'est la période crari des fêtes dehors où les gens ils se retrouvent, blablabla, blablabla, qu'il y a moins de soutien à l'extérieur parce que c'est la fin d'année, c'est comme l'été, quoi. Que par contre, il y a des cabines publiques dans tous les centres de rétention, sauf quand, quand elles sont cassées ou mis hors service par les keufs, et que ces cabines-là, elles sont disponibles sur le site du Justi ou d'Abalekra, qu'il ne faut pas hésiter à appeler et à sortir les infos pendant, pendant les prochaines semaines, et à surtout montrer qu'on, 'fin, continuer de montrer aux gens à l'intérieur qu'on est solidaires, et qu'on va pas lâcher, quoi. Parce que y a rien de, en fait, il y a rien de pire que de laisser tout ça se faire dans le silence et qu'il y ait personne dehors qui soit au courant, que ce soit les gens sans papier ou avec papier, quoi.
Et pour parler des fêtes de Noël, en tout cas, enfin des colis Noël dont on parlait la semaine dernière, ça y est, la note de la DAP est tombée. Les colis sont pas autorisés. Hein, on va pas se voiler la face, puisque ça fait 2 ans qu'ils interdisent les produits frais. Voilà, donc voilà, c'est toujours la même galère. Et en plus, maintenant, ils rajoutent des conditions en fonction de chacune des tôles, où t'as l'obligation d'avoir un parlu, ou genre de choses, ou même venir en parlu. Pour pouvoir apporter le colis, voilà. Et donc comme d'hab, ils sont là, ils ont encore restreint plus que ce qu'ils n'avaient fait l'année précédente.
On rappelle que le colis Noël, c'est issu d'une lutte, et qu'en fait à la base c'est quand même le seul moment dans l'année où tu peux ramener de la bouffe fraîche pour tes proches, et donc à la fois pour les gens dehors, ça permet d'apporter du soutien et de montrer ton affection, quoi, et pour les gens à l'intérieur, c'est hyper important parce que c'est un moment où tu ressors de la bouffe pour la partager avec tes co-détenus et des gars qui sont en galère, etc., quoi. Et que en fait là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la même manière que ce qui s'est passé dans plein de parloirs, dans plein d'endroits, c'est revenir sur tous les acquis qu'il y a eu ces, enfin là depuis longtemps. Et essayer de nous les manger. Et en fait, tant qu'il n'y a pas de mouvement de résistance à l'intérieur et dehors, en fait, de la part de tous les gens, les proches et tout, qui doivent ramener des colis, eh ben, ça veut dire que l'administration pénitentiaire, elle va gagner. Et ce n'est pas parce que le Covid va s'arrêter à un moment et que ça va devenir une grippe ou je ne sais pas c'est quoi leur délire, que le colis de Noël va revenir, quoi. Et donc,
non, mais oui, enfin, faut qu'on. Voilà, on va juste annoncer. Donc, la semaine prochaine, ça sera une émission qui sera enregistrée. Et on va faire des émissions aussi toutes les semaines, mais qui seront toutes enregistrées. Et aussi, à partir de lundi, donc en 8, on va y avoir tout ce qu'on a enregistré pour le procès de Sambali. Et donc, ça se passera à midi. De midi à 13h tous les jours de la semaine, donc
et voilà, quand il dit lundi en 8, c'est le lundi 20, quoi.
Voilà, on souhaite vraiment plein de force à tous les gens à l'intérieur. Désolé de lâcher le direct à ce moment là parce qu'on sait que c'est quand même autre chose d'avoir le direct que les enregistrements. Voilà, je sais pas, à tous les gens qui nous ont quand même grave accompagnés et filés, parce que quand même c'est grâce à vous à l'intérieur qui vous battez, qu'en fait on a l'énergie de venir ici toutes les semaines. Voilà, il y a eu ce bouquin pour l'abolition de la peine de mort, n'hésitez pas, enfin contre, enfin pour la fausse abolition de la peine de mort, voilà, qu'on a sorti grâce à des textes que vous nous avez écrits de l'intérieur. Un grand merci à Libreflow, parce que quand même, tes lettres, elles ont grave fait plaisir et tout ça. Kémy, c'est pareil.
Ouais, Fabrice aussi, hein. On attend de tes nouvelles si un jour t'as envie. L'infâme, bah écoute, c'est toujours un plaisir de te recapter et on va se revoir en janvier de toute façon. D'ici là, on se tient au courant. Bah voilà, aux copains là que tu viens de citer, à Youssef.
Ouais, qui nous a... coucou. Simer pour la lettre, j'espère que bah, tu vas bientôt être affecté, quoi, comme tu ouais. Attends depuis un certain temps.
À Yuri aussi, qui a été envoyé à Vendin et qu'on sait qu'il est en train de prendre particulièrement cher en ce moment. Plein de force, on rentre en contact et enfin voilà, on va pas lâcher le morceau non plus.
C'est aussi le moment de filer plein de force aussi à toutes ces familles qui se sont battues cette année. Voilà, et comme les années précédentes, en fait, mais cette année, on en a en tout cas plus parlé. Et un grand, grand merci, Big Up, plein de force à Najette,
Oumou.
À Oumou, voilà, toute la famille aussi de Taoufik à Montpellier, dont on a peu donné de nouvelles ces derniers temps et qui est dans une autre étape en ce moment. Voilà, mais c'est grâce à vous que cette émission elle vit et voilà. Ouais. Et aussi toutes les personnes en CRA où en fait bah il n'y a pas des blasts comme ça parce qu'ils reviennent régulièrement parce qu'ils se font expulser et tout ça. Mais tous ces gens-là prennent énormément de risques pour soit parler à cette antenne, soit nous envoyer des lettres et tout. Enfin, voilà quoi, on cherchera toujours à porter cette parole le plus longtemps possible.
Ouais, et aussi un gros big up à toutes les familles, des gens qui sont encore vivants en Tolo, mais tous les gens qui se battent depuis 2 ans contre les parloirs en plexi, contre les colis de Noël de merde là qui sont en train de nous faire cette année. Parce que juste, hein, quand on dit que les colis de Noël c'est de la merde cette année, c'est-à-dire qu'il y a plein de proches qui vont pas les faire et il y a plein de prisonniers qui vont pas les avoir quoi.
Et voilà, puis Romain, enfin tout ça, tout le monde. Force, courage et détermination.
Il n'y a pas d'arrangement. Rediff mercredi 8h30.
Et la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Wanna be me? I do they streaming numbers with the vinyl and the CD. Selling boy, you know I'm in the toy. When you see me, got the lamb in my name like CD. I put food in the oven and I ain't talking CD. That blue magic had a junkie shooting like 3D. My neck look 3D, cause S sitting next to the VV. My bitch the prettiest next to Riri. See me feeding the homeless, I needed these moments. I'm a boss, not just a rapper, I don't see no opponents. A nigga hating that he just caught in the heat of the moment. Probably cause that 650, he see me and I own it. I can move a pie raw, since Buff had the Aurora with the suicide doors. My bro cut a nigga upstate, they threw him 5 more. That grimy rap in the game, tell me who provide more. The machine, nigga. Yeah. All my niggas outside, they outside. All my niggas outside, we outside. If it's pressure, then we gon' slide. Hope you got your gun, you know I got mine. If it's pressure, then we gon' slide. All my niggas outside, they outside. All my niggas outside,
my nigga batters in the can, and he doing 40 flat. My nigga took his time like a G, and that's a fact. Always in good spirits when he hit me on the jack. Why you so called real? Niggas celebrating rats. Going on YouTube, running up these niggas' views. Can't be on both sides, my nigga, you gotta choose. Niggas try to justify the shit in all his interviews. And the niggas in the comments say they would've did it too. I just seen a video on the news I couldn't believe. Another racist cop kill a nigga and get the lead. Okay. He's screaming, I can't breathe. Cop ignoring all his pleas. Hands in his pocket, leaning on his neck with his knees. Cracker invent the laws, that's why the system.